Radio Stable.
Morning Edition from
NPR.
France Inter, le 18-20.
On patrouille à pied à la recherche de traces de pas. Quand on en trouve, on appelle notre caporal. On veut aider, car on veut que nos enfants puissent continuer à voir ces animaux.
Et ça se passe au nord du Kruger Park, qui essaie de lutter contre le massacre des éléphants. Une opération ivoire en cours qui montre combien c'est une véritable guerre qui oppose les braconniers et les rangers. Ce sera l'escale reportage ce soir sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu à New York, à Londres et en Italie. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Boin est à Bruxelles et elle nous dira que dans la capitale européenne, on ne parle pas d'Europe avant les élections, ce qui est quand même un comble. 18h55, le monde à l'envers et Franck Madvon en Afrique du Sud qui vote la semaine prochaine. Une ANC très mal en point, mais sans concurrence. Allez, nous partons pour le Venezuela. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Le 1er mai devait être le plus important 1er mai de l'histoire du pays. On a été à deux doigts aussi d'un changement de pouvoir il y a 48 heures. On ne sait pas très bien. Puis finalement, le Venezuela est toujours coincé entre un président intérimaire reconnu par la plupart des pays occidentaux, mais un président élu dont l'élection est contestée, qui est toujours là et bien là. Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Directeur de recherche à l'IRIS, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Est-ce qu'on a, on a un peu du mal à s'y retrouver au fond? Est-ce qu'on est passé à deux doigts d'un changement de pouvoir? Est-ce que ce ralliement de quelques vaillants soldats, ce sont les termes utilisés par Guaido, a été un coup de bluff finalement ou pas?
Non, je crois que c'est ni on est ni passé à côté d'un changement de pouvoir et c'est pas non plus du bluff. Je crois que ce qui s'est passé avant-hier, en réalité, on voit bien, même si effectivement la confusion règne, on voit bien que l'objectif n'était pas tellement de réussir, cette tentative de coup de force militaire et médiatique aussi, parce que la masse critique n'y était pas. La capacité militaire de Monsieur Guaido reste vraiment très marginale, enfin quasiment inexistante. Je crois que l'objectif n'était pas celui-là. C'était à la fois de relancer, d'impulser une nouvelle vague en fait de mobilisation de son camp, de remobilisation même, j'ai envie de dire, de son camp, parce que Monsieur Guaido est quelqu'un qui depuis le 23 janvier annonce régulièrement que c'est la chute imminente de Monsieur Maduro. Puis ça fait, on entre dans le quatrième mois depuis son coup d'éclat du 23 janvier et ça ne prend pas. Donc c'est l'idée de relancer ça et peut-être de lancer des ballons d'essai aussi pour justement tester finalement la résistance et la solidarité des institutions vénézuéliennes autour de Monsieur Maduro et au premier chef desquels l'institution militaire. Et je crois que ça servait à ça, outre aussi le fait de libérer, ce qui n'est pas rien dans la vie politique intérieure vénézuélienne, Monsieur Leopoldo López, qui est un peu son mentor et le théoricien finalement de cette stratégie radicalisée de l'opposition.
Mais alors du coup, qui a été libéré mais qui s'est réfugié d'abord à l'ambassade du Chili puis à l'ambassade d'Espagne, c'est quoi son rôle à Leopoldo López au fond? Et est-ce qu'il tire des ficelles? Il fait quoi en fait?
Alors, il joue un rôle très important parce que Leopoldo López, c'est quelqu'un qui joue un rôle depuis le début des années 2000 au Venezuela. On va pas refaire l'histoire ici, mais disons que c'est lui qui a théorisé finalement, qui a fondé le parti politique de M. Juan Guaido, qui s'appelle Volonté Populaire, qui est membre de l'Internationale Socialiste. Et c'est lui qui a théorisé à partir de 2013, disons, une stratégie de radicalisation contre le pouvoir chaviste, pensant que celui-ci était déjà désormais fragilisé après la mort d'Hugo Chavez. Et donc, une stratégie à la fois institutionnelle, mais aussi de mobilisation de rue, qui n'exclut pas l'utilisation de la violence comme moyen de lutte au nom de la restauration démocratique, et puis l'idée de construire une alliance internationale pour aider l'opposition à atteindre ses objectifs, que M. Guaido désormais met en place dans un contexte de radicalisation généralisée.
Alors on va revenir effectivement à cette opposition, un mot quand même encore sur ces 48 dernières heures. Est-ce que Maduro a eu peur quand même? Est-ce qu'il a senti le vent du boulet? Est-ce qu'il s'est dit qu'il pouvait se passer quelque chose? Parce qu'il y a de folles rumeurs qui ont couru. Est-ce qu'elles ont été instrumentalisées peut-être par les Américains? Même Pompeo lui-même a dit qu'il y a un avion qui était prêt pour l'envoyer à Cuba, etc. Donc, est-ce qu'à un moment, il s'est dit peut-être qu'il se passe quelque chose ou même pas?
Je crois qu'il faut être plus que prudent parce que tout ça est quand même... Enfin, la communication et l'information, là plus qu'ailleurs, est un champ de bataille permanent. Il y a une guerre de communication autour du moindre geste des uns et des autres. On surévalue, à mon avis, certaines choses ici, d'autres ailleurs, etc. Les Russes ont tout de suite démenti dans la seconde cette affaire-là. Bon, franchement, on n'en sait rien. Ce qu'on voit, par contre, du côté de Washington, c'est quand même une accélération en fait des prises de position, du rythme aussi auquel les dirigeants américains interviennent et une répartition des rôles qui élargit désormais les protagonistes, disons, de ce dialogue par Twitter sur le Venezuela. Non plus seulement à Monsieur Trump, Monsieur Pompeo ou Monsieur John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, mais aussi à Monsieur Pat Shanahan, qui est le secrétaire à la défense désormais américain. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que maintenant c'est l'armée
Bien
qui
sûr,
parle.
Il y a même eu un tweet qui a dit on pourrait intervenir si besoin. Je me suis un peu les termes exacts.
Alors, c'est monsieur Pompeo qui a dit on interviendra si c'est ce qui est nécessaire, mais on préférerait une transition pacifique. Et monsieur Shanahan a renchéri en disant que finalement, rappeler une chose importante, que le Venezuela était, la stabilité du Venezuela était une priorité de la sécurité nationale américaine. Il faut mesurer les mots que ça veut dire, et que donc l'armée se tenait prête pour faire ce qu'elle avait à faire s'il fallait faire quelque chose. En gros, c'est ce qu'il a dit.
Et en parlant de l'armée, d'ailleurs, l'armée vénézuélienne, quand Maduro appelle aujourd'hui l'armée à combattre tous les putschistes, fermez les guillemets, est-ce que là aussi, il est en train de jouer à la surenchère verbale, ou est-ce que ça veut dire qu'il s'est bien stabilisé avec sa propre armée, qu'il est sûr qu'elle est bien derrière lui?
Je pense qu'il est plutôt sûr qu'elle est derrière lui, et quand même, quoi qu'on pense de monsieur Maduro, tout atteste que pour l'instant, l'armée s'est pas effritée, hein. Je veux dire, il y a quelques centaines de soldats qui ont rallié monsieur Guaido. Monsieur Bolton, toujours, a laissé entendre hier matin que 3 hauts gradés rejoignaient monsieur Guaido. Que lui-même a dit, ce qui s'est pas révélé être vrai. Bon, vraiment, on est vraiment dans le fake, il faut faire attention à tout ça, mais il est sûr qu'en tout cas depuis le 30 avril et le 1er mai, c'est un nouvel épisode, disons, de ces vagues intenses de confrontation entre le pouvoir et l'opposition, et que là, il est clair qu'après cette tentative d'hier, il va y avoir, disons, un retour de bâton du gouvernement et de la justice qui a dit, Maduro fera ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il pourchassera ce qu'il appelle les putschistes et les auteurs d'un coup d'État raté, et M. Guaido risque d'avoir des problèmes.
Finir en prison, non, ou pas?
Bah, dans n'importe quel autre pays au monde, c'est ce qui lui arriverait.
Est-ce qu'il s'impatiente, ce Juan Guaido, justement, d'une situation, finalement, effectivement, vous le disiez, qui est une vraie situation de statu quo, je sais pas comment on appelle ça, du coup, sa prise de pouvoir, ça date du 28 janvier maintenant,
23 janvier,
pardon, et au fond, il s'est pas passé grand-chose. Est-ce que l'opposition ne l'a pas vraiment rallié? Est-ce qu'elle le regarde un petit peu bizarrement pour l'instant? Est-ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, ça échoue, en fait, sa tentative?
Bah, en tout cas, il a réussi certaines choses. Il a réussi à réunifier autour de lui cette fameuse opposition vénézuélienne qui est quand même très hétéroclite, diverse. Il a réussi à incarner un nouveau leadership dans cette opposition. Ça, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à doter cette opposition d'une stratégie qui n'est plus discutée et qui est celle qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une stratégie d'affrontement, de confrontation sans compromis, en fait, avec Maduro, qui d'ailleurs, par ailleurs, leur rend bien, puisque il est jusqu'à présent, même s'il y a quelques aujourd'hui nuances, il a été quand même jusqu'à présent sur cette ligne-là. Et donc, ça, il a réussi. Ce qu'il n'a pas réussi, c'est ce qu'il a promis à tout le monde, à commencer par Washington. Et quand on s'intéresse à la presse américaine, on découvre quand même chaque jour qu'on a l'impression qu'au départ, disons, l'administration Trump a été un peu embarquée par cette opposition vénézuélienne qui lui a promis que cette fois-ci, c'était la bonne, en quelque sorte, et que le chavisme allait tomber. Et finalement, bah, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça qui est intéressant, au fond. Parce que M. Maduro n'est pas que M. Maduro. Il est le président en poste au Venezuela. Les institutions sont derrière lui. L'armée est derrière lui, jusqu'à présent. Et puis, quand même, il y a une résilience très forte du chavisme. Souvent, on en parle. C'est que il y a un noyau au Venezuela très important, certainement plus du tiers de la population, qui est indéfectiblement chaviste. Et on peut pas gouverner contre elle. Et or, la stratégie de l'opposition n'a pas réussi à emmener ces gens-là avec eux, loin de là. Donc, c'est une espèce de statu quo qui est mauvais, parce qu'il y a deux pays, finalement, qui s'affrontent dans un même territoire.
Alors, du coup, deux choses. Un, si, imaginons qu'on organise des élections demain et que ça fonctionne très bien, sans triche, sans rien, ça veut dire que Juan Guaido n'est absolument pas sûr de l'emporter.
Je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question très franchement. Le rapport de force aujourd'hui lui garantirait pas une victoire. Non, ça c'est pas sûr. Mais pour Monsieur Maduro, le résultat serait certainement pas très bon non plus. Mais Monsieur Guaido n'arrive pas, en tout cas, à faire la démonstration qu'il arrive à avoir la majorité des Vénézuéliens avec lui. Parce que même s'il remobilise très fortement son camp qui était un peu en déshérence, c'est un bloc très important. C'est certainement 40, un peu plus % de la population vénézuélienne. Mais c'est pas la majorité des Vénézuéliens, et les institutions ne vont pas avec lui.
Est-ce que
l'armée, en tout cas.
Vous disiez effectivement que le plan, au fond, c'est de provoquer la confrontation avec le pouvoir. C'est comme ça qu'il entend le prendre définitivement, ce pouvoir. Mais pour qu'il y ait confrontation, ça veut dire qu'il faut que la population suive. Et éventuellement, la confrontation, ça se passe dans la rue. On a bien vu là que le 1er mai avait été beaucoup moins impressionnant que ce qu'ils avaient imaginé qu'il pourrait être. Et surtout, est-ce qu'elle n'est pas extrêmement épuisée, cette population vénézuélienne, pour aller à la confrontation avec le pouvoir?
Ça, c'est un paramètre déterminant. Je crois qu'aujourd'hui, la population vénézuélienne, elle est surtout fatigué, épuisé même par ce conflit qui n'en finit pas, par sa situation concrète quotidienne qui se dégrade fortement. On n'en finit plus de commenter la crise vénézuélienne, la rétraction très importante de la production du pays, ses exportations de pétrole, les pénuries, tout ce qu'on a dit. En plus, tout ça, il faut savoir que ça s'est largement empiré, même jusqu'à devenir quasiment insoutenable depuis que les États-Unis ont mis des sanctions très dures depuis 2017 et 2019. Il y a d'ailleurs un rapport qui vient de sortir, qui est co-signé par l'économiste, une des sommités de la discipline économique mondiale, qui est Jeffrey Sachs, qui estime que les sanctions américaines depuis 2017 sont responsables de 40 000 morts, 300 000 personnes qui seraient concernées aujourd'hui en risque de mort à cause des sanctions. Et puis, si vous voulez, près de 68%, je crois, des revenus vénézuéliens qui ont fondu et que l'État n'a pas pour importer ce dont il aurait besoin. Donc, si vous voulez, on arrive à un niveau où, de toute façon, la population, son problème, c'est d'avoir ça.
L'énergie de la révolution, on en est loin, en fait. L'énergie de descendre dans la rue pour aller chercher un changement de régime.
Bah là, vous avez des camps qui ont
dans un camp
des...
comme dans l'autre, d'ailleurs.
Oui, bah vous avez. C'est quand même des camps assez impressionnants. Hein, chacun dans son genre, qui quand même arrive régulièrement à prendre les rues. Enfin, c'est tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais la plupart de la population, ce qu'elle souhaiterait, c'est voir ses problèmes quotidiens réglés, mieux vivre, retrouver une vie relativement normale. Et donc, l'épuisement est là. Donc, du coup, aujourd'hui, il faudrait, en conditionnel, que les énergies soient mobilisées aussi bien chez les chavistes que chez l'opposition que à l'extérieur, pour construire les conditions minimales, disons, d'un dialogue pour sauver le pays. Parce que sinon, cet épuisement va arriver dans une impasse et un conflit qui pourrait dégénérer à un bout d'un moment sous la forme d'une guerre civile qui, là, elle, serait utilisée ou instrumentalisée pour justifier une forme d'intervention militaire dont on ne connaît pas les formes. Mais c'est à peu près ça le schéma. Et c'est la stratégie, en fait, aujourd'hui que porte, à mon avis, Juan Guaido.
C'est-à-dire d'attendre vraiment, de pousser la population à bout pour attendre qu'au fond, effectivement, on arrive à l'affrontement qui serait une guerre civile. C'est très dangereux.
C'est en tout cas ce qui mécaniquement devrait se passer. Parce que si l'armée se fractionne, si vous avez des bouts de l'armée qui partent avec Guaido, on rentre dans une guerre civile. Le scénario, c'est un peu la Libye, toute proportion gardée. Et c'est là que certainement on justifierait à ce moment-là la légitimité d'une intervention face à cette situation. Ce n'est pas, j'espère, ce qui va arriver. Mais oui, c'est ce que porte, disons... la stratégie aujourd'hui qui est à l'œuvre, et celle de M. Maduro va être certainement la répression. Donc on n'en sort pas.
Justement, est-ce que Nicolas Maduro, lui, a conscience quand même de la crise dans laquelle le pays est ? Est-ce qu'il fait des choses pour essayer de tourner la population vers lui, en tout cas celle qui, pour l'instant, lui tourne le dos à lui ? Est-ce qu'il en a bien conscience ou pas ? Parce que pendant la fameuse crise de l'aide humanitaire, coincée dans un pays et puis dans l'autre, etc., on avait l'impression qu'on était dans cette espèce de jeu de chat et la souris, mais sans vraiment avoir conscience de ce que vivait la population vénézuélienne, en fait.
Si, je crois qu'il est au fait de la situation. Je crois qu'il n'est pas en mesure, il ne sait pas comment réellement la modifier, cette situation liée aux incompétences internes, liées aux sanctions américaines qui rendent quasiment impossible une relance économique, encore une fois, j'insiste. Et donc, il est pris dans cette nasse. Et aujourd'hui, de toute façon, comme c'est une logique d'affrontement et d'escalade, l'urgence, c'est au jour le jour, en quelque sorte, de survivre et de faire face et de rendre coup pour coup. Et on est dans cette logique-là, si vous voulez. Donc du coup, ça rend très difficile, ou même impossible, un temps d'arrêt qui permettrait de réfléchir à une sanctuarisation ou une stabilisation et de résorber les urgences économiques. C'est pas possible.
L'annonce de l'entrée en vigueur des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale...
PDVSA.
C'est ça, ouais. Donc c'était le 28 avril, là, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est il y a trois jours. Est-ce que ça ajoute encore, ou est-ce qu'au fond, au point où on en est, franchement, les Vénézuéliens, les pauvres, verront guère la différence?
C'est un peu le coup de poignard final de Washington, parce que si vous voulez, en faisant ça, les sanctions, cette fois-ci, interdisent littéralement au Venezuela. Le Venezuela, 95% des devises qui rentrent dans ce pays et qui servent essentiellement à importer ce qu'il consomme, parce qu'il importe tout ce qu'il consomme, comme beaucoup de pays rentiers, c'est lié directement aux exportations de ces barils de pétrole. Donc aujourd'hui, si les bateaux de PDVSA ne peuvent plus commercer ou avoir une transaction avec quelques pays ou quelques compagnies étrangères, et que le marché américain est désormais fermé pour la première fois au mois de mars dernier, du fait des sanctions, il n'y a eu aucun aucun baril de pétrole vénézuélien qui arrivait sur le marché américain. Alors le marché américain, malgré tous les affrontements qu'ils ont depuis 20 ans, ça représente encore quasiment 40% des exportations pétrolières vénézuéliennes. Donc c'est une déflagration pour l'économie vénézuélienne. Et l'affaire de PDVSA que vous citez en la sanctionnant, ça coupe la possibilité à l'État vénézuélien de continuer à commercer encore un petit peu avec un certain nombre de pays qui acceptaient de commercer encore avec eux. D'ailleurs, on a vu que l'administration de Trump a rappelé à l'ordre l'Inde, qui souhaitait racheter une partie du pétrole que les Américains n'achètent plus au Venezuela.
Mais est-ce que ce gel du pétrole est de nature à gêner Maduro, au fond, dans son souhait de consolider le pouvoir ou pas ?
Ça le consolide à court terme, paradoxalement, parce que, en fait, dans ces conditions extrêmes et radicales, ça permet de ressouder son camp, qui peut tout à fait avoir des débats internes, et il y en a, qui peut tout à fait critiquer sa gestion, et il y en a beaucoup, etc. Mais quand vous êtes dans des conditions aussi extrêmes, ça, il y a raison d'État en quelque sorte, ça resserre tout le monde, mais dans une logique d'affrontement, c'est ça qui est pas bon. Donc paradoxalement, ça renforce à court terme, parce que pour cette raison-là, mais en même temps, ça ne fait qu'empirer la situation du pays et son incapacité à pouvoir faire quoi que ce soit réellement pour redresser un minimum la situation. Donc à moyen terme et long terme, c'est pas bon pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'espère Washington. En réalité, ces sanctions sont faites pour ça, c'est pour créer une espèce de chaos et de fragilité, de ras-le-bol qui permettent à la population réellement de demander son départ.
Est-ce qu'il y a un nouveau, ce sera la dernière question, l'équivalent du 1er mai, un nouveau rendez-vous ou quelque chose qui permettrait un autre épisode en fait qui risque d'allumer une étincelle? Est-ce qu'on attend ça dans les semaines qui viennent?
Oui,
dans les
on
jours
peut l'attendre, même si factuellement on ne sait pas ce qui est programmé. En tout cas, moi je ne sais pas ce qui est programmé du point de vue de l'opposition, mais de toute façon, M. Guaido a prévenu le 30 avril que ce qui s'est passé au petit matin, 4h du matin à Caracas, c'était le lancement de la phase finale de ce qu'il appelle l'opération Liberté, et que c'était irréversible. Donc ça veut dire que, si on écoute M. Guaido, il va y avoir d'autres mobilisations. D'ailleurs, il a annoncé une grève générale, il appelle l'administration à faire grève générale. Donc ça, c'est aussi un message au chavisme de l'intérieur, puisque l'administration travaille pour l'État constitutionnel. Donc c'est encore un ballon d'essai pour tester finalement, encore une fois, ces secteur-là, il va y avoir une grève générale et on va aller vers quelque chose qui va être crescendo. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça les perspectives.
Merci beaucoup, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Vous reviendrez pour nous parler du Venezuela. J'ai envie de dire hélas, et en même temps, vous êtes le bienvenu dans Un jour dans le monde.
Merci. France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe au Kruger Park pour une opération ivoire destinée à sauver les éléphants. On parlera de cette guerre sans fin qui est celle des rangers du parc contre les braconniers. Ce sera l'escale reportage sous les radars et Amélie Perrier. On parlera d'art contemporain, de hot dog à New York et de baisers échangés tout près de Matteo Salvini. Ça le gêne beaucoup. 18h50 comme ça que jeudi. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Nous allons à Bruxelles, capitale de l'Europe, qui vote comme nous le 26 mai, mais que les européennes. Mais les européennes, du coup, on n'en parle quasiment pas. Et puis 18h50. Le monde à l'envers de Franck Madon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
En Afrique du Sud, élection la semaine prochaine, Franck. Une ANC critiquée, une ANC mal en point, mais probablement une ANC gagnante.
Voilà, 25 ans que l'ANC est au pouvoir et l'ANC va sans doute l'emporter à nouveau. On vous expliquera pourquoi. Un homme y est pour quelque chose, il s'appelle Cyril Ramaphosa, c'est le président.
Allez, à tout à l'heure, ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini. Ça se passe au rythme de Bess Ditto, dites-moi. Heavy Cross dans Un jour dans le monde.
It's up to me and you.
Bess Ditto sur France Inter, Heavy Cross sous les radars et Amélie Perrier, c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Amélie, l'art contemporain parle de notre monde et parfois de ses lieux les plus effrayants.
C'est ce qu'a voulu faire l'artiste Laurence Abou Hamdan. Il fait partie des 4 finalistes du prix Turner, récompense britannique parmi les plus prestigieux sur la scène mondiale de l'art contemporain. Laurence Abou Hamdan a voulu savoir et retranscrire ce que l'on entend à travers les murs d'une prison. Et pas n'importe laquelle, la prison de Sednaya, en Syrie, près de Damas. Il a recueilli le témoignage de 6 survivants.
Inside my silence is the master. There's a lot of silence. Your country is your voice.
Alors voilà, Sednaya, prison du régime de Bachar al-Assad. 13 000 opposants y ont été pendus entre 2011 et 2015, selon Amnesty International. L'artiste, né en Jordanie, installé aujourd'hui à Beyrouth, a travaillé avec Amnesty et avec donc 6 rescapés. Il a utilisé des effets sonores pour aider ses anciens prisonniers à se souvenir et à cartographier l'architecture de la prison. Un plan que l'on ne connaissait pas, une prison inaccessible. Et quand ces détenus étaient enfermés, ils avaient souvent les yeux bandés, ils étaient plongés dans l'obscurité. Conséquence, ils ont développé une sensibilité aiguë au son. Abou Hamdan mêle donc dans son œuvre la mémoire humaine, le travail des sens, l'architecture et le travail de reconstruction psychologique. Une œuvre en lice avec 3 autres artistes, eux aussi très engagés. Hein. Il y a la londonienne Hélène Kamok, elle a travaillé sur le rôle des femmes à Londonderry en 68, en Irlande du Nord. Le colombien Oscar Murillo, lui, il s'est intéressé aux retombées sociales de la mondialisation. Et Tai Shani, la 4e finaliste, elle est londonienne, elle a aussi créé une allégorie d'une cité de femmes dans une performance théâtrale. Le lauréat sera annoncé en décembre.
Allez, beaucoup plus léger s'il y avait, s'il y avait un emblème de la nourriture de rue à New York, ce serait celui-là.
Oui, puis c'est quand même un peu lourd hein,
c'est ça.
À digérer. Le hot dog à chaque coin de rue, un vendeur ambulant vous propose ce symbole de la gastronomie new-yorkaise.
Hey man, do you ever wonder what we taste like?
What do you mean?
You know, the ketchup, the mustard. With all this stuff on us, we gotta be pretty tasty. Did you just take a bite of yourself?
Actually, yeah. I'm pretty delicious.
You just did it again! Steve!
Pops hot dogs. Hot dogs.
Et voilà,
done right.
Une pub pour des hot dogs. De très bon goût. Des hot dogs qui se mangent entre eux. Hein. Mais le maire de la grande ville américaine ne les goûte plus vraiment, ces hot dogs. Bill de Blasio a décidé d'imposer un Green New Deal et dans ce cadre, il veut réduire la viande transformée dans les cantines des institutions de la ville. L'élu veut aussi réduire les achats de bœuf de 50% d'ici 2040. Et Bill de Blasio promeut enfin le lundi sans viande dans les écoles publiques new-yorkaises. Le défi est écologique mais sanitaire aussi pour endiguer l'épidémie d'obésité dans le pays. Alors, comme souvent désormais, les réseaux sociaux sont un peu enflammés, parlant de l'interdiction du hot dog partout dans New York. C'est bien seulement dans les cantines municipales que l'on ne reverra plus de hot dog. Les touristes et les New-Yorkais pourront encore s'en payer un dans les épiceries, les stades ou chez les vendeurs ambulants.
Allez, un baiser, pas du goût de Matteo Salvini pour finir.
L'homme fort du gouvernement italien, patron de l'extrême droite dans la botte, adore les selfies. Il en fait, en poste beaucoup sur ses comptes Instagram, Twitter et Facebook. Mais parfois, il ne contrôle pas tout, comme à Caltanissetta en Sicile, où il participait à une réunion publique pour un candidat de son parti. La scène a été filmée. Et oui, rire appuyé, car Salvini a été victime d'un photobombing. Alors le photobombing, vous savez, c'est le fait de s'incruster sur un cliché par surprise, souvent derrière le sujet principal. Et là, ce sont 2 jeunes femmes qui ont fait irruption dans le cadre, Gaïa et Mathilde, se sont embrassées à pleine bouche, juste derrière le dirigeant. Un moyen pour les 2 jeunes femmes de protester contre les positions anti-LGBT de Salvini. Dernièrement, il a participé au congrès des familles à Vérone, un rassemblement anti-avortement et anti-mariage gay. Le patron de l'extrême droite avait réaffirmé la bas son soutien aux familles, je le cite, composé d'un papa et d'une maman. Mathilde et Gaïa, elles, sont devenues des stars en quelques jours sur les réseaux. Photos abondamment reprises jusque dans la presse papier.
Amélie Perrier est sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est dans le Kruger Park, en Afrique du Sud, que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde, le Kruger où braconniers et rangers se mènent une véritable guerre. Petite victoire l'année dernière, le nombre de rhinocéros tués dans le pays par les braconniers a reculé, c'est ce que dit le ministère de l'Environnement. Mais au sein du Kruger Park, au nord-est du pays, la lutte est sans fin. Bonsoir Claire Bargelès.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Claire, le nombre d'éléphants braconnés a lui augmenté l'année dernière. Les efforts sont désormais centrés donc sur le nord du Kruger, près de la frontière avec le Mozambique. Une opération Ivoire a été lancée et vous nous emmenez, Claire, aux côtés de ces rangers qui utilisent la technologie pour donner une nouvelle dimension à la lutte contre le braconnage.
We are in Punda Maria. In the north of the Kruger National Park.
On se trouve actuellement à Punda Maria. On se dirige vers un cadavre d'éléphant avec la police, qui va essayer d'établir ce qui a pu tuer cet animal.
Try and find out what killed that animal.
Nous suivons Ike Pakla, porte-parole du parc, le long d'un sentier en montée. Au-dessus de nous, une colonne de vautours nous indique la direction à suivre. Et soudain, entre les rochers, on découvre une immense masse couchée sur le flanc. Cet éléphant mort a été découvert la veille. L'odeur et les mouches n'empêchent pas la police et les experts légistes du parc, armés de détecteurs de métaux, d'étudier la dépouille. Le sergent Ngobeni a une première idée des causes de la mort de l'animal.
Ce sont deux éléphants mâles qui ont dû se battre. Donc l'animal a dû mourir de ses blessures suite à ce combat. C'est une mort de cause naturelle.
C'est une fausse alerte pour cette fois. Mais en janvier, sur 4 cadavres retrouvés, 2 étaient l'œuvre de braconniers. Alors le parc a décidé de renforcer ses moyens, comme l'explique Ike Pakla.
Nous avons lancé l'opération Ivoire pour apporter de l'aide technique à cette partie du parc et se concentrer davantage sur la conservation des éléphants. Parce que l'on a observé une augmentation dans le nombre d'intrusions par les personnes qui chassent cet animal de façon illégale.
Pour faire face à des braconniers de plus en plus organisés, les rangers se sont transformés en soldats modernes. Leurs méthodes sont calquées sur les techniques militaires et leur déploiement est contrôlé à partir d'une salle des opérations où sont projetées des cartes interactives. Un outil essentiel selon le chef ranger Nicolas Fonda.
On gère un territoire de la taille d'un pays. À l'est, on a une frontière avec le Mozambique, au nord avec le Zimbabwe. À cause du braconnage des éléphants, on a installé cette salle des opérations ici. La police de la région du Limpopo rejoint nos rangers ici et ils s'organisent jour après jour.
Pour se défendre, les rangers peuvent compter sur des fusils dernière génération, des avions pour survoler le parc ou encore des chiens entraînés à suivre la trace des braconniers, comme l'explique Sam, l'un de leurs maîtres.
On investit beaucoup dans les chiens. Ils sont essentiels et d'une aide précieuse. Ces chiens sont rapides, ils sont entraînés pour se battre, pas pour mordre. On veut qu'ils soient prêts à se battre avant que l'on arrive sur place, pour éviter les échanges de coups de feu qui se produisent parfois.
Le parc teste même l'efficacité d'une brigade à cheval. Toutes ces innovations sont nécessaires, selon Nicolas Fonda, pour ne pas se laisser dépasser par les braconniers.
Des fois, il faut être en avance sur eux pour pouvoir les battre. C'est difficile de rester à leur hauteur. Donc on essaie d'avoir une longueur d'avance sur les braconniers car on ne veut pas que ce soit des criminels qui contrôlent notre nature. C'est difficile de les attraper car cela demande des ressources et aussi beaucoup d'informations. C'est pour cela que l'on a créé une unité d'enquête autour des crimes environnementaux qui travaille à l'extérieur du parc pour récolter des informations et faire du contre-espionnage.
La technologie sans l'humain ne suffit donc pas. Le parc jouxte aussi de nombreux villages qui peuvent servir de base aux braconniers. Alors des habitants de ces communautés comme Younis ont été recrutés pour devenir des moniteurs environnementaux et effectuer des patrouilles.
On patrouille à pied à la recherche de traces de pas. Quand on en trouve, on appelle notre caporal. On veut aider, car on veut que nos enfants puissent continuer à voir ces animaux. Moi, je les emmène souvent au parc.
Embaucher des patrouilleurs ou moderniser les équipements, cela demande de nombreux moyens. Alors le parc fait appel au secteur privé pour compléter ses financements. Des chaînes de grande distribution, des compagnies immobilières ou minières contribuent à cette lutte contre le braconnage. Un soutien indispensable selon Ike Pakla, porte-parole du Kruger.
«
Nous avons un budget d'un peu plus de 10 millions d'euros pour gérer le parc Kruger, surveiller les animaux, veiller à leur conservation et appliquer la loi. Et donc tout seul, cela ne suffit pas. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas avoir plus d'argent du gouvernement, car il y a d'autres priorités. Donc on doit demander au secteur privé de nous aider. On sélectionne les entités dont on reçoit de l'argent. Et lorsque quelqu'un donne de l'argent, il ne doit être soumis à aucune condition.
Un peu moins de 200 000 euros ont été collectés pour cette opération Ivoire, soit un quart de ce que les responsables du parc estiment nécessaire pour protéger les éléphants dans ce combat sans fin.
Claire Barjolès en Afrique du Sud pour un jour dans le monde. On y retournera d'ailleurs, tiens, pour parler élection cette fois, et ce sera dans un instant. Allez, restez avec nous. Tiens, voilà la Fat White Family sur France Inter. Feet. I could not believe it, could not believe my eyes. The thing that I saw down there, down between your thighs. I can see it over and over again. Roll over at the look, holy blood skin. If I turn it over, would you make it work? Sideways to that other realm. Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise. I pray God. My refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity absolves. Un bar lounge comme ça, très classieux, non? Avec Fight White Family sur France Inter. La chanson s'appelle Fit.
Je suis venu vous parler de rock.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe, on l'aime ou on la quitte. Chaque jeudi, l'Europe avant le vote du 26 mai. Nous voici à Bruxelles avec Angélique Bouin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Angélique, la Belgique vote comme nous le 26 mai. Mais quel est le comble pour la capitale de l'Europe? Eh bien, c'est qu'on n'y parle pas d'Europe.
Oui, ou très peu en tout cas, car le 26 mai, ici en Belgique, on ne vote pas seulement pour élire les 21 députés européens, non, on vote aussi pour élire des représentants dans les 5 autres parlements du pays. Accrochez-vous bien, Fabienne, on vote aussi pour les élections fédérales, l'équivalent donc de notre parlement national, et pour les élections régionales, pour le parlement flamand, pour le wallon, francophone, donc pour le parlement germanophone, et pour celui de la région Bruxelles-Capitale où je me trouve. Il y a 3 régions en Belgique, la Wallonie, la Flandre et la région de Bruxelles, et 3 communautés linguistiques, et là, je vous ai perdu, francophone, wallon et
je suis là.
Vous êtes toujours là, germanophone. 3 scrutins donc ce jour-là, hein, 366 listes et 7000 candidats, et ce n'est pas le scrutin européen qui occupe le plus le débat public. Pour les Belges, l'Europe c'est naturel, c'est acquis. On va dire que c'est les enjeux nationaux, car ici nous n'avons plus vraiment de gouvernement gouvernement depuis fin décembre. Le Premier ministre, le libéral Charles Michel, qui le dirigeait, a vu sa coalition éclater lors de la signature du pacte mondial pour les migrations. Ses ministres nationalistes flamands du NVA, qui étaient opposés, ont claqué la porte. Le roi avait alors refusé la démission du gouvernement et chargé Charles Michel d'expédier les affaires courantes. En attendant quoi? Eh bien, ce triple scrutin du mois de mai, la mère de toutes les élections ici, qui a lieu tous les 5 ans.
Et donc, les partis sont en campagne sur quelle thématique?
Eh bien, en décembre, on pensait que ce serait avec cette crise sur le pacte de l'ONU que la question de l'immigration sera au cœur de la campagne électorale. Mais en fait, c'était sans compter sur les collégiens et les lycéens belges. Depuis fin décembre, ils sèchent, vous le savez, les cours chaque jeudi. Et ça continue, pour interpeller la classe politique et leur demander d'agir pour le climat. Ils étaient 3000 au début, ils sont montés jusqu'à 70 000. Ils ont provoqué la démission de la ministre flamande de l'Environnement en février et poussé en quelque sorte l'ensemble des partis traditionnels et des autres à revoir leur programme, aller vers dire. Il y avait déjà eu une vague verte en décembre lors des municipales, mais là, les écolos sont en progression partout dans les sondages. Tous les partis parlent donc d'écologie. J'ai assisté à un débat avant-hier entre 5 candidats. La planète, on en parle. Les affiches et les slogans se sont adaptés. Alors, les libéraux promettent par exemple, sur fond de panier de tomates, des circuits courts et un projet éco-positif. Le PS propose de l'éco-socialisme. Red is the new green, rouge est le nouveau vert. Ose de son côté le parti d'extrême gauche qui a pour ambition de cumuler révolution sociale et écologie. Et puis sur certaines affiches de candidats régionaux, on voit même l'un d'eux qui porte son vélo sous le bras. Il y a une candidate qui arrose ces fleurs. J'avoue qu'on sent un peu d'improvisation partout.
Mais en tout cas, ce que ça veut dire aussi, Angélique, c'est que dans la région Bruxelles-Capitale, les écolos pourraient devenir la première force politique.
Oui, et ailleurs également, ils sont en tête des sondages. Son première force d'opposition aussi en Wallonie, en Flandre, c'est toujours le parti nationaliste, la NVA qui mène la course dans les sondages. Le nationalisme et la question migratoire sont restés vivaces quand même dans le débat public, mais ce parti est très fort. Et bien, il est talonné par Groen, le parti Groen, je sais pas très bien le prononcer, pardon, le parti vert flamand. Va falloir que je progresse. Reste à savoir si le vote écolo sera plus fort au niveau national ou bien au niveau européen. Car ici, eh bien, comme ailleurs, on vote pas toujours pour la même couleur politique, selon le scrutin. Les votes pour les législatives et les régionales, c'est souvent un vote plus utile, entre guillemets. Le vote européen est souvent plus un choix de cœur, disent les politologues. On verra bien. Une chose est sûre, la participation est assurée. On annonce plus de 80% de votants. Et pour cause, car le vote, eh bien, il est obligatoire ici. Et si on ne produit pas une bonne excuse, eh bien, on écope d'une amende, Fabienne, de 40 à 80 euros.
Eh bien, merci beaucoup, Angélique Bouin. Progressez en flamand, on se retrouvera jeudi.
Je travaille.
Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le monde à l'envers et Franck Madvon. Franck, des élections générales se tiennent donc la semaine prochaine en Afrique du Sud. On en parlera ici probablement très longuement. Le pays vient de commémorer les 25 ans de la fin de l'apartheid, mais il se porte mal. Le chômage bat des records, les accusations de corruption pleuvent et pourtant, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, devrait une fois de plus rafler la mise. Et c'est votre monde à l'envers.
Oui, l'ANC, Fabienne, c'est le parti de la libération. Le parti qui a fait la fierté d'une immense majorité de Sud-Africains et d'une grande partie des Africains en général. C'est le parti de Nelson Mandela. L'ANC, le Congrès national africain, s'est élevé contre le régime raciste de l'apartheid. Et il a gagné son combat sans que le pays ne sombre dans la guerre civile. Il a fait de la nation arc-en-ciel un modèle pour le monde entier. Depuis 1994, le parti a remporté toutes les élections de larges victoires. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est dotée d'une constitution qui protège les droits des citoyens. Le fossé entre blancs et noirs a été en partie comblé. Les noirs, 80% de la population, ont pu accéder à la classe moyenne. Beaucoup d'entre eux sont sortis de la pauvreté. L'économie sud-africaine reste la plus industrialisée du continent. Le pays fait partie du G20. C'est la diplomatie la plus influente d'Afrique.
Sauf que les années Jacob Zuma, Franck, ont sévèrement terni ce bilan.
Ouais, Zuma, le premier président Zoulou à la tête de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018, il incarne la face sombre de l'ANC, un parti devenu une mafia. Jacob Zuma est aujourd'hui empêtré dans les scandales. Sous sa présidence, l'État a été gangréné par la corruption. Son bilan est désastreux. Pendant des années, les Gupta, une riche famille d'origine indienne, ont pu se servir dans les caisses de l'État en échange de marchés publics. Ils ont arrosé Zuma et son clan. Ils ont même pu choisir des ministres. Beaucoup d'entreprises ont profité du système. Et c'est aujourd'hui le grand déballage. Une kyrielle de ministres, d'élus, de hauts fonctionnaires sont mouillés dans des affaires de corruption. De nouvelles révélations ont émaillé la campagne. Elles touchent le secrétaire général de l'ANC en personne. Le bilan, c'est un parti qui a perdu beaucoup de son crédit et des indicateurs économiques dans le rouge. Taux de chômage de 27%, augmentation de la dette, creusement des inégalités. L'Afrique du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires au monde.
Et donc pourtant, l'ANC fait la course en tête dans les sondages, Franck.
Oui, à 6 jours des élections, le parti recueille un peu plus de 50% des voix dans les sondages, très loin devant ses concurrents. Il doit sa popularité en fait à son leader, Cyril Ramaphosa, l'actuel président, la bonne conscience de l'ANC. Il a pris la succession de Zuma en 2018 avec une promesse, faire le ménage, nettoyer les écuries de l'ANC. Un énorme défi, beaucoup de ceux qui ont profité du système occupent encore des postes à responsabilité dans le parti. Mais Cyril, comme l'appellent ses partisans, inspire confiance. C'est lui que Mandela avait initialement désigné comme dauphin. Il avait ensuite cédé au cacique de l'ANC qui lui préférait Thabo Mbeki. Ramaphosa a attendu son heure. Il a fait fortune dans le privé avant son retour en politique il y a 5 ans. Son parcours de héros de la lutte anti-apartheid à homme d'affaires à succès lui assure une forte popularité.
Mais confronté à des défis donc colossaux. Hein.
Ouais, d'abord une élection à gagner. L'ANC par grand favori mercredi, mais les jeunes, la génération des born free qui n'a pas connu l'apartheid se détourne du parti. L'opposition lui fait de l'ombre, en particulier Julius Malema, le chef des combattants pour la liberté économique, un mouvement nationaliste très à gauche. C'est en partie pour le contrer que Ramaphosa propose un projet d'expropriation de terres sans compensation. Le président devra aussi réhabiliter l'ANC, vaincre enfin la corruption au sein du parti. Mais Cyril Ramaphosa est surtout attendu sur l'économie, la lutte contre le chômage et les inégalités. Si Ramaphosa échoue, les Sud-Africains pourraient bien cette fois tourner le dos à l'ANC.
Franck Madvon et Le Monde dans l'envers dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, ne bougez pas.